que celui qui n'est jamais passé par des moments douloureux me jette la première chaise ou le premier banc. Je crois qu'on est tous passés par des moments difficiles. Et c'est aussi important de savoir comment réagir, pourquoi la souffrance et comment. Alors je vous propose de lire un texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Et nous allons lire les versets 18 à 39. Romains chapitre 8, versets 18 à 39. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander quand nous prions. L'Esprit lui-même intercède donc avec des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. C'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La question la plus difficile à laquelle nous puissions être confrontés demeure effectivement celle de la souffrance. Parce que la souffrance ne se pose pas en termes de théorie, mais comme une déchirure. Une déchirure de notre âme. Comme tout pasteur, j'ai parfois sonné à des portes en espérant que personne n'ouvrirait. Parce que je savais que derrière cette porte, il y avait de la souffrance. Et la souffrance des autres, c'est effrayant. À la fin du livre de Job, Dieu appelle Job son serviteur. Malgré toutes les épreuves, malgré sa souffrance, Job est resté serviteur de la gloire de Dieu. Et le Seigneur rajoute une chose qui me semble importante. Il rajoute, Job a parlé de moi avec droiture. Voici donc l'objet de ma méditation ce matin, puisque c'est le sujet que vous m'avez demandé d'aborder. Dans la souffrance, je veux parler de Dieu avec droiture. Quand, comme frère ou sœur, je suis assis à côté de celui qui souffre, à côté de celle qui souffre, je veux l'aider à parler de Dieu avec droiture. Il me semble que c'est là tout l'enjeu essentiel de l'accompagnement des personnes qui sont dans la souffrance. C'est l'une des parties les plus exigeantes du ministère pastoral. Au sein de la souffrance, dire Dieu sans le trahir, dire Dieu sans le travestir, sans ces tentatives d'explication qui ne disent finalement que la limite de notre sagesse humaine. La souffrance véritable, celle que provoquent des morts injustes, celle que provoquent des morts prématurées, celle qui provoque des maladies odieuses, la mort ou la souffrance véritable que provoquent les trahisons honteuses. Ces souffrances-là, frères et sœurs, elles sont là et elles agressent notre foi. Elles agressent notre corps. Elles agressent notre âme. Elles agressent notre esprit. Alors, se lèvent en chacun de nous des questions effrayantes. Et se lève aussi en nous la tentation. La tentation, pour ne pas perdre la face, ou peut-être pour être utile, parce que finalement, devant cette souffrance, je n'ai rien à dire. J'ai honte. Parce que je ne sais pas quoi dire. Naît la tentation, une tentation inconsciente de bricoler avec Dieu, de dire n'importe quoi, dans le but de combler du vide. d'essayer de raisonner, de trouver une consolation dans un ordre qui soit logique, dans une pseudo-justice immanente. Mais ce faisant, il faut que cela soit clair pour chacun de nous, nous trahissons notre Dieu. Nous le réduisons à être qu'une idole. Nous le réduisons à n'être qu'une forme de porte-bonheur qui vient de tomber en panne. En Romains chapitre 8, Paul témoigne. Et son témoignage est empreint d'une profonde spiritualité, une densité de foi qui nous éclaire sur nous-mêmes, mais qui éclaire aussi notre Dieu. Car il faut que nous sachions, vous et moi, que nous voudrions regarder la souffrance comme une anomalie. Nous voudrions regarder la souffrance comme un accident exceptionnel, comme un accident inadmissible. Nous regardons la souffrance comme un défaut dans la souveraineté de Dieu. Or, regardez ce que Paul dit, regardez ce que Paul déclare. Il dit, la souffrance, c'est tout à fait normal. La souffrance est normale. Pourquoi ? Parce que la souffrance appartient encore au cours de ce monde. Et il nous rappelle que nous voudrions toujours l'oublier. N'oubliez jamais. C'est en espérance que vous êtes sauvés. C'est une espérance certaine, solide, ferme, inébranlable. C'est un salut définitif que Christ a acquis par sa mort sur la croix. Mais ce salut, vous et moi, nous ne le vivons pas encore dans sa pleine dimension. Oui, nous avons la tête dans le ciel. Oui, nous avons encore les pieds sur la terre. Il y a le déjà de notre salut, mais il y a encore et toujours le pas encore. Nous appartenons encore aujourd'hui, ce matin, à cette création qui a été soumise à la vanité. Vanité, verset 20. Ici, comme dans l'Ecclésiaste, vanité signifie fragilité, signifie ce qui est éphémère, ce qui doit disparaître. Oui, oui, frères et sœurs, il vient ce nouveau monde. Il vient ce nouveau monde où il n'y aura plus de cris, plus de douleurs, plus de souffrances, plus de morts. Mais aujourd'hui, les premières choses n'ont pas encore disparu. Dans ce monde, il faut faire avec le deuil. Il faut faire avec la douleur. Il nous faut souffrir. C'est vrai que le païen, celui qui ne croit pas en Dieu, peut espérer passer au travers, avoir la chance en jouant la carte de l'individualisme, mais gare à lui si la vie le rattrape. Mais pour nous, nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons pas échapper à la souffrance. Nous sommes exposés à toutes les souffrances auxquelles sont exposés tous les hommes, toutes les femmes. Mais en plus, nous sommes solidaires les uns des autres. Je dois, dis-je, Seigneur, souffrir avec celui qui souffre, souffrir avec celle qui souffre. Alors en plus de ma douleur, en plus de ma souffrance, je dois souffrir avec celui ou celle qui souffre. J'aime énormément ce que disait un théologien catholique, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin disait, ou plutôt il a écrit, écoutez bien, un chrétien ou une chrétienne qui ne connaît pas les morsures cruelles de la vie, c'est un chrétien qui n'a pas suffisamment approché ses frères. C'est un chrétien qui n'a jamais porté le fardeau de ses frères et sœurs. C'est un chrétien qui n'a jamais partagé, qui n'a jamais accompagné personne avec une réelle persévérance, avec une réelle proximité. Alors, j'ai envie de dire, et je dis, il n'est pas juste. Il n'est pas juste de présenter la vie en Christ comme d'une manière de se mettre à l'abri des coups durs. Être en Christ, c'est avoir une espérance plus forte que la mort, mais ce n'est pas échapper à la mort. Les souffrances dont parle l'apôtre Paul sont liées, on le sait, à son ministère. Que n'a-t-il pas connu, Paul ? Persécution, naufrage, agression. Sachez que toute souffrance véritable, c'est une souffrance de témoignage, puisqu'il nous faut crier à travers cette souffrance que Dieu est juste, que Dieu est bon, quand tout proclame l'inverse. Paul affirme qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances que nous vivons aujourd'hui et la gloire à venir. Et ce n'est ni par légèreté ni par inconscience, mais par une conviction profonde, née de son expérience intime avec le Christ, qu'il peut le dire. Alors, je voudrais très rapidement relever trois points. Regardez le verset 27. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ, glorifiés avec lui. Mais est-ce que vous avez lu la suite ? Elle est là, la suite. Et vous n'avez pas le droit d'enlever le texte de son contexte. Nous sommes co-héritiers, nous sommes héritiers, nous sommes glorifiés avec lui. Regardez, c'est marqué. Si toutefois nous souffrons avec lui. Alors les gens qui viennent me voir, ils me disent, monsieur le pasteur, je souffre. Et si je viens vous voir dans votre bureau, c'est parce que je voudrais que vous me débarrassiez de cette souffrance. Vous ferez bien une petite prière pour moi. Et puis, vous êtes pasteur, votre petite prière, elle fera disparaître cette souffrance. Comment ? Comment est-ce que je peux leur dire, sans être odieux ? Mais c'est normal. Vous devez souffrir avec Dieu. La souffrance est normale. Car, regardez le texte, il ne s'agit pas seulement de souffrir à cause de Christ. Là, il y a encore un élément consolant. Ma souffrance est due au fait que je témoigne de Dieu, que je témoigne de Jésus-Christ. Alors je souffre parce que les gens en face de moi ne sont pas d'accord avec moi. Alors je souffre. Il y a là, je crois, une espèce de justification d'utilité. Le résistant le résistant pendant la guerre avec les nazis en 39-45, il acceptait la torture. Il acceptait d'être torturé par les nazis. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait qu'un souhait, libérer son pays. Et il était persécuté, mais persécuté à cause de ma foi. Il me reste un élément d'utilité auquel je vais m'accrocher de toutes mes forces. Je souffre pour toi, Seigneur. Tu as souffert pour moi, je souffre pour toi, c'est normal. Mais ce n'est pas le texte. Souffrir avec Christ. Avec. Ici, mes amis, se pose la signification de notre fraternité avec le Christ. Qu'est-ce que ça signifie, être frère de Jésus-Christ ? Je vous rappelle qu'il n'a pas honte, lui, de nous appeler ses frères. Souffrir avec Christ, parce qu'il est notre frère, c'est souffrir sans jamais renier le Père, même quand notre prière ne discerne plus son chemin. Et c'est là mon deuxième point. La souffrance, vous devez le savoir, débouchera toujours sur une prière impossible. Qu'est-ce qu'il faut demander ? Qu'est-ce qu'il faut demander ? J'étais là avec vous quand nous avons prié pour notre frère. J'étais là avec vous. Nous lui avons demandé de le guérir. Et j'étais là aussi, au balcon, avec mon épouse, lors du service de son enterrement. Que faut-il demander ? Seigneur, guéris notre frère. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire ? Qu'est-ce que je dois demander ? Ma prière devient alors quelque chose d'impossible. Et l'apôtre Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. La vie, la mort, la conversion, la guérison, tout, rien. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. La souffrance, c'est quelque chose qui nous met, vous et moi, tout nus. Elle est là pour nous révéler notre faiblesse. Car il ne s'agit pas seulement d'ignorance. Cette ignorance, nous ne savons pas, c'est marqué noir sur blanc, nous ne savons pas, nous sommes ignorants, mais cette ignorance, c'est le signe d'une faiblesse. Une ignorance, vous et moi, vous le savez, une ignorance, ça s'éclaire et ça disparaît. Ce que je ne sais pas, je peux l'apprendre. Et une fois que je l'ai appris, je ne suis plus ignorant. Mais cette faiblesse-là, cette ignorance-là, je la porterai, vous la porterez jusqu'à votre mort. Elle disparaîtra quand nous serons près de notre Dieu. Reconnaître cette faiblesse, c'est accepter que l'Esprit Saint soit notre secours. Il sonde notre cœur, il intercède pour nous et il est notre avocat. Vous avez noté ? Il est notre avocat. Quand nous n'avons plus de voix, quand notre cause est désespérée, quand nous ne savons plus comment nous défendre, alors la souffrance devient libératrice, puisqu'elle m'assure que le Saint-Esprit intercède alors pour moi. Alors je peux vivre ma souffrance. Alors je peux partager ma souffrance. Alors je peux partager ta souffrance. Parce que finalement, ce qui compte, ce n'est, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'un pasteur est tout puissant, ça existe. Combien de fois dans mon bureau j'ai entendu des gens me dire « Mais monsieur le pasteur, vous allez faire une petite prière, puis je serai guéri, puis je ne souffrirai plus. » Ce qui compte, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas ma théologie, ce n'est même pas ma capacité de répondre à toutes leurs questions. Mais ce qui compte, c'est l'intercession du Saint-Esprit. Il est notre avocat, il est notre consolateur. Je vous renvoie, je n'ai pas le temps de le faire, je vous renvoie au chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Et puis, il faut que je termine, il y a cette déclaration que vous connaissez, que je connais, mais que nous connaissons par cœur, parce que combien de fois nous l'avons récitée. Cette déclaration, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. C'est là une promesse. C'est là, je crois, une consolation puissante. Mais je suis coupable, et tu es coupable, de l'avoir galvaudé, transformé. Tu l'as transformé, je l'ai transformé en une sagesse à bon marché. Demain, justifiant aujourd'hui. J'en ai fait une réponse facile, une formule creuse, parce que le but ici était de faire taire celui qui souffrait. Combien de fois j'ai entendu des pasteurs dire « Tu souffres, mais tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Comme si cette formule-là allait faire disparaître la souffrance. Mais dites-moi, sérieusement, faire taire, est-ce que c'est consoler? Et en tant que chrétien, en tant que pasteur, c'est là notre rôle, de consoler. Regardez le texte. Le bien dont il est question ici, c'est d'abord l'assurance toujours plus forte que l'amour de Dieu ne se relâchera jamais. Que ce qui voudrait nous faire renier Jésus-Christ, souvenez-vous de la femme de Job. Après ce que tu as vécu, Job, maudit Dieu, et puis meurt. Cela même nous fera glorifier son nom. La souffrance coopère à notre bien malgré elle. Elle voudrait nous détacher de Christ, mais le Saint-Esprit nous le rend encore plus précieux. La souffrance voudrait nous faire renier Dieu. La souffrance voudrait nous faire dire n'importe quoi sur Dieu, nous détacher de cette espérance. Mais elle ne le peut, car l'amour de Dieu versé dans nos cœurs demeure plus fort que toute puissance de destruction. Alors, avec Paul, nous confessons qu'au travers de toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'amour de Dieu, personne ne pourra jamais nous l'arracher. Nous avons cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a donc ces trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et rappelez-vous que la plus grande chose de ces trois, c'est l'amour. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Jésus n'a jamais dit, les copains, faites un effort pour vous aimer. Dans la mesure où c'est possible, essayez de vous aimer. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre. C'est un ordre auquel je vais obéir. C'est un ordre à laquelle tu dois obéir. Que Dieu nous aide dans ces moments difficiles. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce qu'à travers elle, nous trouvons la voie de la paix, la voie de l'espérance. Merci Seigneur. Parce que les moments difficiles par lesquels nous passons, la souffrance, la disparition de nos êtres chers. Tu sais toutes choses, Seigneur. Et cette souffrance, tu la partages avec nous. Et nous te louons pour cela en Jésus-Christ. Amen.